Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, les cinémas pourraient rouvrir à la mi-décembre. D'ici là, eh bien, Cinérama s'adapte pour vous proposer un sommaire qui mêle DVD, VOD et diffusion sur les chaînes de streaming. Alors pour toi, Guillaume, c'est une diffusion Netflix.
Oui, c'est Hudson Hawk de Michael Lehman qui sort sur Netflix.
Pour toi, Manu, c'est un DVD.
Eh bien, c'est une reprise, hein, enfin une reprise, c'est-à-dire que c'est une sortie Blu-ray du Cercle Rouge qui devait d'ailleurs sortir en salle et qui a une sortie repoussée de Jean-Pierre Melville.
Ça nous donnera l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de Jean-Pierre Melville. Il faudra trouver 5 films à partir de 5 extraits. À vous de réviser la liste des 13 films du réalisateur français. Quant à Marine, elle va profiter de la sortie en VOD de The Broken Hearts Gallery, oui, la galerie des cœurs brisés, pour faire un point sur la comédie romantique. Et puis, en toute fin d'émission, eh bien, on écoutera Filippo Meneghetti, le réalisateur de Deux, car c'est son film qui va représenter la France aux Oscars. Mais on débute avec Bruce Willis en Gentleman Cambrioleur pour Hudson Hawk.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Je suis peut-être superstitieux, mais ça me dérange toujours de commettre un crime à moins de 24 heures de ma sortie de prison.
C'est une arrivée étonnante sur Netflix qui va nous permettre de réfléchir un peu sur les évolutions d'un art toujours en mutation. Revivrons-nous en ce début de décennie ce que le cinéma d'action avait vécu à l'orée des années 90? Rappelez-vous, après un trop-plein de sérieux et principalement face à la menace communiste, les gros bras des années 80 vont aborder le virage d'une nouvelle décade qui va avoir la démocratisation du second degré, voire même de l'œuvre méta, quand elle n'était pas tout simplement parodique. Si Schwarzenegger et Stallone vont quand même calmer les velléités comiques avec les cartons de Terminator 2 et Cliffhanger en 91 et 93, cela fait déjà quelques temps qu'ils ont décidé de séduire un public plus large avec des titres comme Un flic à la maternelle et L'embrouille est dans le sac, ce dernier étant, on le rappelle, le remake d'Oscar avec Louis de Funès. Donc s'il y en a un qui n'a pas eu vraiment besoin de reconversion dans ce sens, c'est Bruce Willis. Car s'il pète la tronche de toute une équipe de faux terroristes mais vrais méchants dans le génial Piège de cristal de John McTiernan, il était à la base un acteur comique ayant débuté dans une série, Clair de lune, et il concrétisera son magnétisme sur grand écran avec Boire et déboire de Blake Edwards. C'est donc tout naturellement qu'il va retrouver en 91 le mogul Joel Silver, derrière le phénomène Piège de cristal, pour lui proposer ce film assez unique qu'est Hudson Hawk, Gentleman et Cambrioleur.
Carry movies home in a jar and be better off than you are. Oh, won't you ever be rude?
Dans quel sens faut-il prendre cet objet particulier? Alors la tâche n'est pas aisée, car vous voilà prévenu, si jamais vous n'avez pas encore eu la chance de tomber dessus, Hudson Hawk est un joyeux foutoir qui part dans tous les sens. Il est presque inutile de s'attacher à la rigueur de l'intrigue, tant elle est volontairement alambiquée et s'amuse à jouer de multiples rebondissements allant jusqu'à l'absurde le plus total. Il est question de Hudson Hawk, donc héros éponyme qui sort d'une longue peine de prison. C'est un as de la cambriole qui ne va pas avoir le temps de mettre un pied dehors qu'un mystérieux commanditaire va le forcer à voler les trois pièces d'un puzzle créé par Léonard de Vinci qui permettrait d'actionner une machine qui pourrait transformer le plomb en or. Le rajout dans le titre français de Gentleman et Cambrioleur est bien évidemment une tentative de faire comprendre que le film tisse une filiation avec Arsène Lupin, même si le délire ambiant l'ornurait plus volontiers vers les intrigues de Lupin 3 ou Edgar, la version nippone et pulp de notre voleur national. Alors, Hudson Hawk, c'est le pur produit du Bruce Willis d'alors. Charmeur, blagueur et résolument crooner, il transforme en quelque sorte en héros d'action le personnage de chanteur de blues Bruno Radolini qu'il avait créé pour le faux documentaire HBO The Return of Bruno, pour lequel il avait enregistré tout un album. Donc hein, les plus curieux pourront même retrouver le film en entier sur YouTube. Vous verrez, hein, c'est super drôle et c'est dans la lignée de Spinal Tap. Derrière la caméra, il y a le grand Michael Lehman qui venait de signer le corrosif teen movie Fatal Games, c'est Heather sans VO, hein, avec les juvéniles Christian Slater et Winona Ryder, mais aussi la comédie absurde Mid Applegate où, attention, une famille d'insectes géants d'Amérique du Sud venait à se déguiser en humains pour s'installer dans une banlieue américaine et qui allait lui aussi faire un film musical barré avec Radio Rebels et ses rockers du dimanche, dont Adam Sandler et Brendan Fraser, pas encore starifiés, qui vont prendre en otage une station de radio pour y diffuser leurs morceaux. Et bien sûr, comment ne pas mentionner la présence au générique de Daniel Waters en co-scénariste, déjà derrière la plume de Fatal Games, mais aussi de Fort Fairlane, rock'n'roll détective, produit par Joel Silver.
Tu te plais en Italie ?
Ouais.
Oui. J'ai moi-même toujours eu un petit penchant pour Rome. J'y ai accompli ma première strangulation à main nue. Un communiste, je m'en souviens encore.
Mais t'es un grand sentimental, en fait.
Je regrette tellement le communisme.
Donc cette réunion assez hallucinante de talents, à laquelle on peut ajouter Danny Aiello hein, en comparse voleur, Andy McDowell en espionne du Vatican, James Coburn en agent de la CIA mégalomane, Frank Stallone, oui oui le frère d'eux, en homme de main, et même David Caruso en tueur mimétique muet, hein, ne garantira malheureusement pas le succès du film qui sera un gros échec à sa sortie. Entre actions, conspirations diverses, cartoon live, méchant pulp et même moments de comédie musicale, car oui, Bruce Willis et Danny Aiello calibrent le temps qu'il leur faut pour voler un objet avec la durée d'une chanson qu'ils se mettent à interpréter sur les scènes de crime. Donc Hudson Hawk était sûrement trop décalé, voire même un poil en avant sur son temps, comme le fut cet autre four célèbre de l'époque, le bien nommé Last Action Hero de John McTiernan. Rappelons qu'un film ultra référentiel comme Scream n'était alors pas encore venu exploser les cimes du box-office, marquant un tournant certain dans notre façon de voir les fictions. Heureusement, et comme c'est souvent le cas pour ces anomalies filmiques, l'exploitation en vidéo redonnera justice au faucon de l'Hudson et permettra la naissance d'un petit culte à la hauteur du mythe que l'on espère être transmis aux millénials via cette mise à disposition sur Netflix. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire ce soir, mais surtout, n'oubliez pas que you could be better than you are, you could be swinging on a star.
Ils remarchent tous.
Hudson Hawk, donc, avec Bruce Willis, est sur Netflix. Maintenant, eh bien, on passe au gros dossier de l'émission. Gros dossier parce que c'est une ressortie d'un film qui a marqué eh bien, le cinéma français. On y apprend que tous les hommes sont coupables. Oui, tous. C'est le cercle rouge de Jean-Pierre Melville.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Tu es le seul à qui j'oserais proposer une affaire. Une affaire classique, sûre, sans risque. Si elle est bien faite. Et si elle est mal faite ?
Alors l'écart qui sépare hein, les premiers films de Jean-Pierre Melville de Deux hommes à Manhattan ou Doulo, s'inscrivant alors encore dans une tradition du cinéma policier classique dans la droite lignée de l'univers de Jules Dassin ou Jean Becker, du Cercle Rouge ne cesse d'étonner même 50 ans plus tard. Melville rêvait d'un cinéma où il ne se passe rien, débarrassé de tout superflu. À partir du Samouraï, hein, il va épurer, dénuder même la structure du film noir, radicalisant sa vision ultra pessimiste de l'humanité et ce dans le cadre d'une production populaire. Alors car, nous l'oublions pas, le Cercle Rouge fut un gros succès à sa sortie qui va perdurer pendant très longtemps, devenant un des titres phares des films du dimanche soir à la télévision. Et pourtant, il s'agit sans doute d'une œuvre sans concession, poursuivant les aspirations esthétiques du samouraï, lubie d'un cinéaste mégalo et exigeant qui tend vers l'abstraction. L'histoire, hein, un peu réduite à peau de chagrin, hein, recoupe même des événements qui paraîtraient grossiers chez un faiseur quelconque, faisant fi de toute vraisemblance. Vogel, un gangster, hein, s'échappe dans un train aux mains du commissaire Mattei. Par un de ces hasards que seul le cinéma ou la littérature en sont capables, il se retrouve dans le coffre d'un ex-détenu, Corée, tout juste sorti de prison. Ils sympathisent et deviennent complices. Ils préparent, avec l'aide d'un flic déchu de ses fonctions, de cambrioler une bijouterie place Vendôme. La linéarité du récit délesté de sous-intrigues et de personnages secondaires sert à merveille la mise en scène rigoureuse de Melville qui traduit très bien l'atmosphère en pleine mutation du début des années 70. Il montre une France déshumanisée, désincarnée, filmant des lieux déserts, des no man's land, aussi bien citadins que ruraux. Il semble à milieu d'un pays qui a connu 68 et anticipe une société qui va prôner très vite l'individualisme à outrance. Alors ce sens inouï de la topographie révèle l'ambition d'un cinéaste qui ne croit plus au pouvoir de la fiction traditionnelle. Les personnages, mutiques, s'expriment seulement pour délivrer des informations à leurs prisonniers de leur solitude. Ils ressemblent finalement à des morts-vivants, sachant très bien qu'ils ne font plus partie de ce monde. Ils incarnent une certaine idée du flic ou du gangster qui va peu à peu disparaître des écrans et donc de la vie.
Vous ne saviez pas qu'un suspect doit être considéré comme un coupable ?
Pas pour moi, monsieur l'inspecteur général. Il m'est passé entre les mains tant de suspects qui étaient innocents.
Vous voulez aller ? Il n'y a pas d'innocents. Les hommes sont coupables. Ils viennent au monde innocents, mais ça ne dure pas.
Melville dirige ses comédiens dans ce sens, des silhouettes fantomatiques qui traversent le film jusqu'à leur destinée inéluctable. Alors Bourvil, à contre-emploi, en commissaire tenace et sombre, est évidemment remarquable, alors qu'il était très malade. D'ailleurs, il est décédé juste avant la sortie du film. La présence d'Alain Delon, magnétique, de Jeanne-Marianne Volonté, étonnamment sobre, et Yves Montand, alors peut-être en deçà des autres, doit beaucoup à la réussite de ce film mythique, d'une lenteur inhabituelle pour un polar de l'époque, plus proche finalement d'Antonioni et de Bresson que de Lautner ou Verneuil. D'ailleurs, Melville se disait très proche du cinéma de Bresson, ce qui peut paraître curieux parfois. Alors Melville dépouille, il retire tout ce qui lui paraît futile. La psychologie est réduite au strict minimum. Les personnages féminins sont quasiment absents, alors qu'on pense, avec la maîtresse du personnage incarné par Alain Delon, qu'elle va avoir un rôle. Or, pas du tout. Et puis les scènes d'action sont évincées, à l'exception du final, qui trouve en contrepoint du reste une forme de lyrisme sec inattendu. Alors Melville signe une œuvre contemplative tout entière dévouée à son atmosphère mélancolique, multipliant les plans larges savamment composés et les lents travelling hypnotiques. Alors s'il ne creuse pas les personnages, en revanche, il les observe comme des mythes, il les contemple comme des êtres quasiment déifiés, ce qui explique, je pense, le succès de ce cinéma de stars qui parvient assez génialement à allier exigences du cinéma d'auteur avec les codes rassurants du cinéma populaire. Rien que pour la séquence de cambriolage entièrement muette, Le Cercle Rouge reste un modèle de cinéma qui emprunte le meilleur du film noir américain sans le singer, parvenant à l'intégrer à l'intérieur de l'industrie du cinéma français. Il a apporté une modernité à un genre alors un peu moribond. Alors rien d'étonnant qu'il reste un peu le modèle indétrônable auprès de toute une génération de cinéastes aux quatre coins du monde, de Jonito à Tarantino, en passant par John Woo, et puis peut-être son fils spirituel Michael Mann. Alors le film ressort donc en Blu-ray 4K chez Studio Canal. Et comme Noël approche, l'intégrale Melville est toujours disponible, alors soit en DVD, soit en Blu-ray, dans un très beau coffret tout jaune.
Et quelque chose me dit que tu pourrais l'obtenir à Noël ou quelque chose
c'est
comme ça.
C'est une envie personnelle. Là.
Le Cercle Rouge, savez-vous combien ce film a fait d'entrée ? Tu parlais d'un gros succès, effectivement. C'est le plus gros succès, je pense, de Melville. Combien ?
Alors, 4 millions ?
Oui,
à peu près.
4,3 millions, oui. Allez, on va jouer cette fois-ci un blind test. Il va falloir trouver 5 extraits de la filmographie de Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville, ce sont 13 longs métrages qu'il a tourné le plus souvent avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, bien que les deux n'aient jamais joué ensemble. Enfin, avec Melville, évidemment. Alors, on le sait ou pas, mais Jean-Pierre Melville ne s'appelait pas ainsi, mais Grimbach, oui. Et c'est une fois à Londres, pendant la guerre, qu'il a pris le nom de Melville en hommage à l'auteur de Moby Dick. Oui, c'est quelque chose que j'ai appris, je savais pas.
Oui, mais moi,
ça ne m'intéresse pas d'habitude.
Non, mais j'ai écouté une émission sur Melville et justement,
oui,
il en parlait.
Il en précisait. Oui. Alors, premier extrait de ce blind test, c'est parti.
Avant même de reprendre ce que je n'ose appeler la routine, nous allons nous occuper de Félix. Voilà. Je sais que Félix n'a pas de comprimé de cyanure sur lui. Je n'ai pas peur qu'il parle, non, c'est pas ça. Mais il n'a sûrement aucun moyen de se soustraire à la torture. La Gestapo ne vous laisse ni la possibilité ni le temps de vous suicider. Il faut lui épargner les souffrances qui risquent de s'éterniser des jours, des semaines, qui sait.
J'y ai pensé. Il n'y a pas plusieurs solutions.
Vous en avez trouvé une ?
Oui, il faut pénétrer à l'intérieur de la Gestapo et en ressortir avec Félix.
C'est tout simple. Donc, c'est trouvé ?
L'armée des ombres.
Oui, film avec Lino Ventura et Simone Signoret, qu'on entend, et aussi Paul Meurice. Arrêté pour pensée gaulliste, Philippe Gerbier, interprété par Lino Ventura, qui dirige un réseau de résistance, s'échappe lors de son transfert vers la Gestapo parisienne. Mais les arrestations des membres de son réseau se suivent et les tentatives de libération ne sont pas toutes fructueuses. Combien d'entrées, d'après vous ?
2 millions ?
Un peu moins, 1,4 million. C'est pour dire que c'est vraiment bien en deçà du Cercle Rouge.
Là, c'est plus austère, entre guillemets. Le sujet est très, 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 très sombre. Il est traité de manière très grave et un finish qui est pesant. qu'on ne peut pas dévoiler. Hein, mais...
On ne peut pas dévoiler. Deuxième extrait.
Pourquoi avez-vous dit que vous ne me reconnaissiez pas?
Pourquoi avez-vous tué Martet?
On devait me payer pour ça.
Que vous avait-il fait?
Rien du tout. Je ne le connaissais pas. La première et la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était il y a 24 heures.
Quelle sorte d'homme êtes-vous?
Quelle sorte d'homme peut-il être? Je suis étonné que vous ne trouviez
Doulo,
pas.
Hein.
Non. Alors déjà, il faut trouver l'acteur.
Oui, il faut trouver l'acteur, là.
Alors là, c'était la voix de...
Parce que ça, c'est pas le deuxième.
De quelqu'un qui ne tourne plus depuis longtemps, qui peut être très agaçant quand il intervient à la télévision.
C'est Alain Delon.
Oui.
C'est Alain Delon, voilà, c'est le samouraï. Eh ben oui, c'est le samouraï.
C'est
oui.
Le samouraï, évidemment.
Oui, évidemment, oui.
Mais oui, il ne connaissait pas l'homme depuis 24 heures. Oui.
Pourtant,
c'était le petit indice.
On a du mal à trouver un extrait d'un film où pourtant le personnage prononce très peu de mots.
Oui, oui. Jeff Costello, donc, dit le samouraï est un tueur à gages. Et malgré eh bien, un bon alibi, il est suspecté d'avoir tué le patron d'une boîte de jazz. Et il est protégé par la pianiste du club qui pourrait le dénoncer. C'est un film avec Alain Delon, François Perrier et Nathalie Delon. En ouverture, il y a cette phrase, hein, « Il n'y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle du tigre dans la jungle, peut-être. » Voilà. Alors ça, c'est un film qui a inspiré, tu parlais du Cercle Rouge, qui a inspiré beaucoup de réalisateurs.
Notamment un film, hein, notamment oui. The Killer de John Woo.
Oui, tout à fait. Et puis aussi, influence directe pour le film Drive de Nicolas Winding Refn. En tout cas, c'est le réalisateur danois qui en a tout de suite parlé hein, dans ses inspirations.
La vengeance aussi de Jonito, qui s'amuse avec Johnny Hallyday à faire un clin d'œil au cinéma français, qui s'est inspiré du cinéma asiatique, qui mélange un petit peu le tout pour faire un polar assez surréaliste, mais très très beau formellement.
Mais il voulait prendre Alain Delon, mais s'est rendu compte qu'il était trop vieux.
Et puis, bah, tiens, il y a Ghost Dog aussi, La Voix du Samouraï, film de Gene Jarmusch. Bon, là, c'est un peu plus clair. 1,9 million d'entrées en France. Ce troisième extrait de ce blind test, je le rappelle, il faut trouver eh bien, un film de Jean-Pierre Melville.
Elle passait derrière un des paravents, mais il n'y avait plus de chambre chinoise. Et elle voyait Paul couché sur le billard. Dans son rêve, le billard se nommait le morne. Elle atteignait le morne. Elle se penchait vers Paul. Sa main gauche touchait le marqueur automatique. Sa main droite se posait sur celle de Paul. Paul disait « Écoute la sonnette des adieux. » Ce devait être le tic-tac du marqueur automatique.
Et c'est donc Les Enfants Terribles.
Oui, un film de 1950 adapté par Jean Cocteau d'après son roman. Après la mort de leur mère, un frère et une sœur vivent dans la chambre fermée d'un grand appartement parisien où avec deux amis, eh bien, ils se créent un univers à la fois baroque et insolite. Et c'est Jean Cocteau qui avait appelé Melville pour tourner ce film qui est peut-être bien le moins représentatif de sa filmographie.
Avec le silence de la mer aussi.
Allez, quatrième extrait.
Je suis venu au monde avec l'as de carreaux dans la main. Heureusement pour André, le directeur de Deauville. Il avait besoin d'oseille pour payer ses impôts. J'ai été lui donner un petit coup de main.
Et lui, t'as donné un coup de chapeau à la sortie.
Il me devait bien ça, non?
T'as raison. Sais-tu combien il avait de pognon dans son coffre l'année dernière, la veille du Grand Prix?
Tiens, une devinette. J'avais jamais pensé à ce jeu-là.
Oh, joue pas, tu perdrais. 800 millions, 800 briques. Tu te rends compte? Et toi, avec tes quelques centaines de sacs, tu vas faire le mariole dans un endroit pareil?
Combien t'as dit? 800 briques?
Ça a été trouvé, Guillaume.
Oui, c'est Bob le Flambeur.
Film de 1955. Bob, ancien truand repenti, est dévoré par la dépendance au jeu. Son lieu, c'est Montmartre, où il rencontre eh bien, une jeune fille sans ressources, Anne, qui est sur le point de sombrer dans la prostitution. Et ruinée par le jeu, eh bien, Bob doit reprendre du service et projette de cambrioler. Quoi, le casino de Deauville, on vient de l'entendre.
J'avoue avoir une petite affection pour celui-là, parce qu'il n'est pas souvent cité, alors qu'il a de très belles qualités et une jolie mise en scène qui finit sur la nuit, le jour, etc. Donc... C'est dommage, on l'oublie beaucoup, mine de rien, celui-là.
Peut-être dans sa filmographie. En tout cas, il arrive plutôt tôt dans la filmographie. Donc, 1955, succès mitigé, 716 000 entrées en France. Rien à voir avec ce film qui a plutôt cartonné.
Je vous présente le voiturier, un homme honorable dont le nom m'échappe.
Il a vu entrer des clients, mais il n'a rien entendu à cause du bruit intense de la circulation dans ce quartier, grouillant de hideux poids lourds et de sifflements de trains. Puis il a vu sortir des clients, ce dont il a une grande habitude, et on est venu lui annoncer la mort d'un homme. Il est encore sous le coup de la stupeur. Auriez-vous la force de parler, mon enfant ?
Vraiment, non, non, quel choc !
Abrégeons, je ne suis pas un tortionnaire. Ne soyez pas timide, allez vous asseoir. Monsieur, un idiot de village comprendrait que ces gens n'ont absolument rien vu quant à la disparition des clients. Ils ne sont pas payés pour en découvrir le motif. Tout le monde n'a pas une imagination au-dessus de la moyenne, messieurs. J'en ai terminé.
Ça a été trouvé, Guillaume.
Le deuxième souffle.
Oui, film de 1966 avec un numéro incroyable de Paul Meurice. Là, ce qu'on entend, l'extrait, on le multiplie par 10 parce qu'il y a plusieurs protagonistes dans cette scène et à chaque fois, ils n'ont rien vu du crime qui vient de se produire. Voilà. Donc, trois hommes s'évadent de la prison de Castres. Donc, Gustave Digu, qui vient d'y passer 8 ans, le commissaire Blot, qu'on entend, disparaît, tandis qu'un hold-up s'organise.
On parlait de John Woo. Là, pour le coup, le finish du deuxième souffle, il y a Ventura avec ses deux revolvers. Hein, c'est clairement une image reprise par John Woo avec Chow Yun-Fat. Hein, clairement, clairement.
Il a tout piqué, ce John Woo. Tout piqué.
Il a du bon goût, hein, contrairement à Corneau qui a fait un remake affreux.
Donc ça, c'est 1,9 million d'entrées en France. Et c'est le dernier film de Melville tourné en noir et blanc. Voilà comment s'achève ce blind test consacré à Jean-Pierre Melville. On rappelle qu'on parlait du Cercle Rouge, donc qui sort dans une nouvelle copie DVD à vous procurer absolument. The Broken Hearts Gallery, la galerie des cœurs brisés, sort en VOD, l'occasion de faire le point sur la comédie romantique.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va là.
Lucie, une jeune femme new-yorkaise qui travaille dans une galerie d'art, perd du jour au lendemain celui qu'elle prenait pour son petit ami, qui s'avère préférer la compagnie d'autres femmes, et elle se fait également virer de son travail par sa boss qu'elle considérait pourtant comme son modèle. Elle décide, suite à ses déceptions et à sa rencontre avec Luc, jeune propriétaire d'un hôtel abandonné, de créer une galerie éphémère dans laquelle les gens pourraient déposer les souvenirs de leurs anciennes histoires d'amour, un mélange cathartique en quelque sorte entre une salle d'exposition et une cave à souvenirs. Très vite, la galerie rencontre un franc succès et Luc et Lucie se rapprochent. Malheureusement, chacun sort d'une histoire d'amour compliquée. Finiront-ils, malgré tout, par tomber amoureux ? Alors, je vous le dis tout de suite, oui, et pour cause, on est bien devant une comédie romantique. Premier film de Nathalie Krinsky, La Galerie des Cœurs Brisés s'inscrit totalement dans ce que l'on pourrait appeler la nouvelle comédie romantique américaine. Le film réunit le comédien Dacre Montgomery, que l'on a connu dans la série Stranger Things, et Géraldine Viswanath. Et malgré une affiche et un titre qui pourraient laisser présager un objet cinématographique des plus niais et des plus édulcorés, cette comédie réussit à contourner les clichés du genre et à proposer un divertissement plutôt rafraîchissant. Dotée d'une photographie soignée, de dialogues truculents, La Galerie des Cœurs Brisés ne révolutionne pas le cinéma, mais elle a le mérite d'être un vrai feel-good movie sans vous donner l'impression pour autant d'avoir renoncé à votre cerveau pendant 2 heures. Le film propose une vision très moderne, réaliste et donc forcément réjouissante des relations amoureuses des jeunes trentenaires ainsi que leurs aspirations. Ici, il n'est en effet pas seulement question d'amour contrarié, mais également d'épanouissement professionnel et de relations familiales. Le personnage central, Lucie, a les qualités classiques de l'héroïne de comédie romantique tout en possédant ce petit supplément d'âme qui la rend réaliste et attachante. Et c'est sans doute parce que ce personnage féminin a été écrit et mis en scène par une femme. Car ce sont bien les réalisatrices américaines qui discrètement, dorénavant, commencent à faire bouger les lignes en se démarquant avec des comédies romantiques telles que Quelqu'un de bien, de Jennifer Kathleen Robinson, mais également avec des comédies mettant en scène des bandes de filles dans des soirées déjantées qui tournent mal, telles que Pire soirée de Lucia Agnello avec Scarlett Johansson. Alors, à quoi reconnaît-on un film appartenant à cette nouvelle vague de la comédie romantique américaine ? Un genre, il faut le reconnaître, hein, qui en a encore assez balbutiement. Eh bien, pour commencer, la nouvelle comédie romantique fait la part belle aux comédiennes dont le physique est plus proche de nous. Fini les actrices à la Julia Roberts qui certes font rêver, mais qui laissent aussi un peu penser que l'amour est réservé aux femmes taille mannequin. Alors ce virage avait déjà été entamé avec Bridget Jones hein, et ses kilos en trop, mais le corps de Bridget Jones et son supposé embonpoint étaient justement l'un des sujets principaux du film. Désormais, les personnages féminins affichent des corps qui ne rentrent pas dans du 36 et assument leur cellulite sans que cela ne soit un sujet. Ces films proposent ainsi une représentation plurielle des corps qui s'inscrit dans la mouvance body positive de cette fin de décennie, le meilleur exemple étant la comédie Isn't It Romantic avec la comédienne très en chair Rebel Wilson. De même, le casting de la nouvelle comédie romantique américaine est inclusif. Terminer les castings plus blancs que blancs des années 2000 et hétéronormés, dans la galerie des cœurs brisés, l'héroïne est d'origine indienne et elle tombe amoureuse d'un homme blanc. Et encore une fois, ça n'est pas un sujet. La meilleure amie de l'héroïne est lesbienne, mais ses préférences sexuelles ne sont à aucun moment utilisées comme un ressort comique. Et puis, la nouvelle comédie romantique américaine propose une vision de la féminité moderne et vraie, portée par des scénaristes ou des réalisatrices qui sont elles-mêmes des femmes, plus ou moins jeunes, ce qui aide quand même pas mal, à l'instar du film Last Christmas, coécrit par Emma Thompson, qui met en scène une héroïne loseuse et un peu alcoolique. Les nouvelles héroïnes de la comédie américaine ont des priorités du XXIe siècle. L'amour leur importe, certes, mais tout autant que leur travail ou que leurs amis. Et les dialogues n'ont pas peur d'être crus, d'être représentatifs de leur époque, ce qui les rend d'autant plus drôles. En résumé, si la nouvelle comédie romantique américaine en est pour le moment à ses débuts, elle nous livre déjà quelques feel-good movies très réjouissants qui ravivent un genre quelque peu endormi.
Romance lesbienne entre deux femmes retraitées, deux va représenter la France aux prochains Oscars, c'est ce qu'on vient d'apprendre.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Elles sont deux, s'aiment plus que tout, mais vivent cet amour dans la clandestinité. Elles sont en fait des voisines. Alors ce qui sépare leurs deux appartements, c'est le palier, vite foulé pour rejoindre l'une dans son lit, l'autre pour dîner. Alors cet amour que Filippo Meneghetti s'empresse de nous montrer avec de fortes étreintes est donc clandestin. Et si on ne connaît pas de famille à Nina, Madeleine, elle n'a jamais rien dit à sa fille, encore moins à son fils avec qui elle a des relations conflictuelles. Les deux amoureuses ont pourtant un projet, vendre leur appartement et partir à Rome. Madeleine promet qu'elle va tout révéler, mais ce n'est pas si simple. Il faudra assumer devant ses enfants toutes ces années de mensonges. Alors imaginons, on voit sa mère en veuve inconsolée, on apprend finalement qu'elle vit une relation amoureuse depuis des années avec la voisine qu'on connaît si bien. Et bien face à ce genre de révélation, qui plus est parce qu'il s'agit d'une relation homosexuelle, les enfants, même les plus ouverts, peuvent avoir des relents réactionnaires. Un événement dramatique va faire basculer cette histoire qui va rester dans le mélodrame mais va s'immiscer bien quelque peu dans le thriller. Cet événement va séparer les deux femmes pour mieux les unir. Filippo Meneghetti, réalisateur italien mais vivant en France, a eu un peu de mal à tourner son film de par son sujet et ses personnages, des femmes âgées et homosexuelles. Formellement, la caméra se montre proche. Le réalisateur filme les corps âgés, l'amour, l'étreinte. Alors, il se dégage de ce long métrage une certaine audace, une certaine finesse aussi à privilégier l'émotion et la simplicité. Alors donc c'est ce film qui va représenter la France aux Oscars 2021. On écoute Filippo Meneghetti, réalisateur de Deux.
D'abord, la chose qu'on voulait faire, c'était créer un espace mental qui est partagé par Nina et Madeleine. Et disons, du coup, au premier abord, on s'est dit elles sont connectées. Vous savez, quand on est en couple, on devient télépathique. On dit un truc et l'autre personne peut terminer la phrase. Et quelque part, même à distance, même, voilà, ils ont le même imaginaire, la même chose qu'elles partagent. Financement, j'avoue, la chose la plus difficile dans le financement a été la vieillesse. Ça a été un vrai problème. J'ai franchement entendu plusieurs fois « Ah, si les protagonistes étaient plus jeunes, on financerait demain. »
Je voulais vous dire une chose qui est très importante pour moi. Je voulais vous dire que je vous aime.
Santé, maman.
Bonsoir, madame.
Bonsoir.
T'as rien dit à tes enfants, maman. T'as pas osé. C'est ça?
Je dis, ça pourrait être un mélodrame, mais en fait, je vais le tourner comme un thriller. Parce que pour moi, le film, c'est un thriller. Mon chef opérateur avait trouvé cette expression que je trouve très juste. C'était un thriller de mœurs. Et du coup, la musique, ça va avec. Parce que comme elle est codifiée, la musique dit les genres. Mais on ne devait pas aller trop loin dans le genre. Parce que sinon, les gens effacent l'émotion. Parce que ça devient mécanique, les genres.
Madame Girard, votre voisine est venue vous voir.
Madeleine.
C'est drôle quand même d'avoir choisi cet endroit pour prendre sa retraite.
Ça, c'est le Colisée.
C'est marrant, on dirait Madame Dorn.
On a dit tout à l'heure que les corps, c'est le premier lieu de la politique. Donc,
oui,
les corps, c'était très important dans ce film. Montrer les corps, les montrer de près, les montrer honnêtement.
Montrer l'âge.
Montrer l'âge.
C'était Filippo Meneghetti, réalisateur de 2. Le son a été pris par Caroline Hérault. Elle nous l'a transmis bien gentiment.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
La semaine prochaine, on a déjà un sommaire, n'est-ce pas Manu?
Oui, bah, je vous parlerai de Thérèse d'Alain Cavaillé qui ressort donc en Blu-ray et puis d'un livre, le Teen Horror, écrit par Pascal Francex.
Et ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial Teen Horror. Et quant à toi, Guillaume?
Ben moi je vous amène dans les terrains du post-apo avec la ressortie de Cyborg dans une très belle édition Blu-ray, l'un des premiers efforts de Van Damme dans le genre.
Pour avoir ce sommaire, il faudra attendre la semaine prochaine, à bientôt.